Les sommets de désodorisante Le Furet, la quincaillerie à la casserole rutilante et les éditions du Bélial présentent La Bibliothèque Orbitale, épisode 8. Résumé de l'épisode précédent, la situation est grave et même désespérée. À bord de son vaisseau spatial, le Vermisseau Prime Sautier, Pitou, l'intrépide gladiateur cosmique, s'est rendu sur le monde primitif d'Howard 17. Afin de passer inaperçu parmi les frustres créatures qui peuplent ce monde barbare, toujours promptes à vous échancrer la boîte crânienne à coups de massue pour peu que vos habitudes vestimentaires s'éloignent un peu trop de la norme, Pitou a troqué son pistolet laser contre une hache de guerre et sa combinaison spatiale contre un saillant pagne en poils de gnou tressé. Ainsi rhabillé, il peut se lancer à la poursuite de Jean-Philippe, l'infâme nécromancien régnant sans partage sur ces terres, et dont les troupes, les immondes hommes koalas de Pandore, sèment la terreur et la désolation à travers monts et vallées, et lacs et plaines, et fleuves et rivières, et mers et continents. Pitou sait que la partie ne sera pas aisée. Il a déjà échappé de justesse à un sortilège qui a transformé tous les villageois du bourg où il séjournait en pince à linge fantaisie, avant de devoir affronter au cours d'un duel homérique Cerbarax, le hérisson de combat de Jean-Philippe. À présent, à la tête d'une armée de plus de 100 000 guerriers, Pitou s'apprête à attaquer la citadelle noire où se trouve le nécromancien, lorsque soudain. Pendant ce temps, à bord d'une station spatiale russe abandonnée, le narrateur, un verre de muscadet dans une main, une chope de Bitburger dans l'autre, réalise soudain qu'il va être bien emmerdé pour feuilleter Les Buveurs d'âme, le roman de Michael Moorcock et Fabrice Coll. Figurez-vous qu'Elric a cette année 50 ans. Et ouais, 50 ans qu'il fit ses débuts dans les pages de Science Fantasy. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais pas né en fait. Mais bon, bref, Elric a 50 ans. Et quelle meilleure façon de célébrer cet anniversaire qu'en publiant un nouveau roman, Les Buveurs d'âme, co-signé par Moorcock et Fabrice Coll. Entre Moorcock et la France, c'est une vieille histoire d'amour. Les moins séniles des plus grabataires d'entre vous se souviennent peut-être, à la fin des années 60, de la tentative d'adaptation du personnage en bande dessinée, signée Philippe Drouillet, ou plus sûrement des deux prestigieux volumes parus dans la collection Aventures Fantastiques, la petite sœur du club du livre d'anticipation des éditions Opta. Plus près de nous, en 2006, il y a eu Elric et la Porte des Mondes, l'anthologie de Richard Combalot, dans laquelle une vingtaine d'auteurs francophones rendaient à leur tour hommage à la création de Moorcock. Et désormais, donc, cette collaboration avec Fabrice Coll. Alors oui, d'accord, l'expérience nous a appris à nous méfier de ce genre de collaboration, où un jeune romancier dans le besoin se voit chargé d'étirer à la taille d'un roman un vague bout de morceau de nouvelles, généralement trois lignes gribouillées sur une serviette en papier, signée par une vieille gloire littéraire, plus occupée à tripoter ses secrétaires particulières dans son jacuzzi king size qu'à se triturer les méninges face à son traitement de texte. Ok. Sauf qu'ici, on a affaire à Michael Moorcock, qui jusqu'à présent ne s'est jamais abaissé à ce genre de pratique, et à Fabrice Coll, auteur tellement doué que, même quand il consacre un roman à Radiohead, qui est quand même au rock contemporain ce que la Berrichonne de Châteauroux est au football international, c'est dire si c'est chiant, et ben même là, il arrive à être intéressant. À l'origine des Buveurs d'âme, il y a une nouvelle, Black Petals, signée du seul Moorcock et parue dans Weird Tales en 2008 à l'occasion du 80e anniversaire de la revue. L'action renvoie au tout début de la carrière du personnage, puisqu'elle se déroule après Tandis que rit les dieux, la deuxième nouvelle, si je ne m'abuse, que Moorcock a consacrée au personnage en 61. Résumé des épisodes précédents. Elric a causé la mort de sa bien-aimée, Simoril, venue connement s'empaler au bout de sa lame. Imrir, la cité qui rêve, a été rasée, et le livre des dieux morts, dont il voulait s'emparer, est tombé en poussière entre ses doigts. C'est dire si Elric a peu la tête à la gaudriole en ce début de récit. Ayant décidé de ranger définitivement Stormbringer dans son fourreau, et privé donc de l'énergie vitale que lui fournissait l'épée, c'est un Elric malade et titubant qui débarque dans le port de Nasea Tiki, accompagné de Triste Lune, à la recherche d'une plante magique dont les vertus médicinales devraient lui permettre de retrouver vigueur et santé. Les buveurs d'âme reprennent l'intégralité ou presque de la nouvelle, mais Colin et Moorcock profitent de l'espace supplémentaire qui leur est alloué pour ajouter diverses péripéties et, surtout, étoffer sensiblement les personnages secondaires. Alors certes, pour qui a déjà lu l'intégrale de la saga, le roman offre assez peu de surprises. Les auteurs n'ont pas cherché à bouleverser l'univers d'Elric, mais bien au contraire à renouer avec un certain style de fantasy, style que Moorcock a en grande partie contribué à façonner. Dans une certaine mesure, on peut parler ici de pastiche, d'auto-pastiche dans le cas de Moorcock, si vous voulez, ce qui en l'occurrence n'a vraiment rien de péjoratif. Il y a sans doute également une petite pointe de nostalgie dans ce travail, le plaisir pour les deux auteurs d'effectuer un retour vers leur passé. Pour Colin, c'est évidemment la possibilité de mettre en scène un personnage qui a forcément occupé une place importante dans ses lectures de jeunesse. Pour Moorcock, on y devine surtout l'envie de rendre hommage aux œuvres qui l'ont influencé, il y a un demi-siècle de cela, de Robert Howard à Edgar Rice Burroughs, en passant par quelques autres. Il suffit pour s'en convaincre de faire la liste des périls qu'Elric et Triste Lune devront affronter dans les buveurs d'âme. Fleurs magiques, ruines hantées, jungle hostile, démons, tribus cannibales. Il plane sur ce roman un doux air de pulp, ce qui le rend d'autant plus appréciable. On peut donc se jeter sans crainte sur Les Buveurs d'âme, édition Fleuve Noir, 19,50€. Et que ceux qui craignaient de ne voir dans cette parution qu'une basse opération mercantile se rassurent, Michael Moorcock et Fabrice Colin ont eu le bon goût de ne pas prendre leurs lecteurs pour des cons. Les voix éditoriales étant ce qu'elles sont, l'actualité nous rappelle que Les Buveurs d'âme n'est pas la première expérience de Fabrice Colin dans le domaine de l'héroïque fantasy. Comme l'an dernier à la même époque, Bragelonne réédite une dizaine de romans qu'ils ont publiés il y a 10 ans, au prix de 10€, parmi lesquels Vengeance, première tentative de Colin dans le genre. Première tentative et première réussite. La vengeance en question est celle de Tyrius Barkhan, orphelin depuis son plus jeune âge, depuis que ses parents se sont fait massacrer sous ses yeux par les Sentai, une troupe de barbares réputée pour les atrocités qu'ils ont l'habitude de commettre. Des années plus tard, Tyrius se trouve dans une position légèrement inconfortable, entre des Sentai plus monstrueux que jamais, un empereur qui a juré d'avoir sa tête, et divers tueurs lancés à ses trousses. Divisé en deux parties assez différentes l'une de l'autre, Vengeance ne cesse de se bonifier au fil des pages, de prendre de l'ampleur, jusqu'à un final constituant un morceau de bravoure comme on n'en lit que trop rarement dans ce genre de récit. Sérieusement, en à peine plus de 300 pages, Fabrice Colin réussit à accumuler plus de coups de théâtre, de retournements de situation et de batailles épiques que dans la plupart des décalogies qui font rien qu'à encombrer les tables des libraires. Donc, si vous n'avez pas l'édition originale, ou sa reprise chez J'ai lu, voilà une manière intelligente de dépenser 10€. Et pour en finir momentanément avec Fabrice Colin, qui a probablement eu le temps de publier 3 nouveaux bouquins depuis le début de ce podcast, signalons la réédition en folio SF de son recueil de nouvelles, Comme des fantômes, initialement paru au Mouton électrique. Là encore, de très belles choses à se mettre sous l'œil, parmi lesquelles, déjà, un premier hommage à Elric et Moorcock. Et il y a surtout la manière dont Colin réussit à s'approprier les figures d'Alice, de Peter Pan, ou l'univers de Jules Verne, pour ne citer que les textes les plus marquants. Il y en a plein d'autres au sommaire, donc faut pas vous priver. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an